Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, la France bouge, l'émission positive en toutes circonstances, hein, on peut le dire. Alors on va tenter encore aujourd'hui de vous faire découvrir des entreprises qui vont bien, qui se réinventent, qui tentent de garder le cap. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry et bonjour à tous. Comme un air de déjà-vu, oui, mais certains ont profité du confinement numéro 1 pour innover. C'est le cas du secteur des ventes aux enchères, passé au 100% numérique. Et tiens, au fait, comment expliquer que la plupart des grands noms du secteur soient français, au moins en partie? Comment se porte ce secteur de l'art dans ce contexte de crise si inédit? Pour en parler avec nous aujourd'hui, la présidente de Christie's France, Cécile Verdier.
Nous verrons que les ventes aux enchères ne sont pas réservées qu'aux initiés. Un site internet revend le matériel des villes qui n'en ont plus besoin. Chaises d'écolier, décorations de Noël et même palmiers, ça s'appelle Agora Store.
Et si je vous demande un nom de salle de vente aux enchères, Carole, vous me citez ?
Drouot.
Drouot, bien évidemment. C'est le plus grand hôtel des ventes du monde et c'était même pas préparé. C'est là qu'ont eu lieu les ventes des successions de Eugène Delacroix, Monet, Renoir, pour ne citer qu'elle. Ce sera notre saga du jour.
Et bien sûr, les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, vous découvrirez Slow Mode, un contre-pied à la fast fashion pour apprendre à retravailler ses propres vêtements plutôt que d'en racheter. C'est dans l'air du temps, on va dire, et ce sera à 13h45.
Et en fin d'émission demain au travail, nous serons avec le directeur général de CETI qui ouvre le capital de l'entreprise à ses salariés tous les 4 ans. Alors, l'actionnariat salarié, qu'est-ce que ça change? On verra cela en fin d'émission.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
C'est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous qui sont là en train de nous écouter plus souvent que d'habitude à la maison en ce vendredi, premier jour de cette nouvelle vie en confinement. On sait la difficulté que beaucoup traversent et nous aurons l'occasion de vous accompagner pendant toute cette période dans la France bouge. Aujourd'hui, on va quand même s'offrir un petit peu de rêve avec un secteur qui s'est transformé avec la crise. On parle donc vente aux enchères aujourd'hui.
Bonjour Cécile Verdier.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes la présidente de Christie's France. Vous êtes à distance pour respecter aujourd'hui le protocole sanitaire. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1. Alors Christie's, c'est bien sûr une maison de vente aux enchères née à Londres, mais désormais aux mains du français François Pinault. Les ventes aux enchères via Internet, vous maîtrisez ça depuis quelques années déjà. Mais on peut dire que cette période avec des salles de vente fermées lors du premier confinement a donné un véritable coup d'accélérateur à votre transformation numérique.
C'est exactement ça. En fait, cette crise et tout ce qui nous arrive depuis le printemps dernier ne fait chez nous qu'accélérer ce qui était en germe depuis très longtemps. Les ventes digitales, c'est-à-dire des ventes sans la présence d'un commissaire-priseur, mais simplement une machine qui prend les enchères d'internautes qui sont en train d'enchérir en appuyant sur le clavier de l'ordinateur, ce sont des choses que nous faisons depuis 2011. Donc, chez nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que nous faisions depuis très longtemps. C'était aussi, de toute façon, une tendance générale depuis lors du marché, la façon dont les gens achètent, les consommateurs achètent, quel que soit l'objet de leurs achats. Donc nous étions en plus, au début de l'année, depuis septembre, il y a un an, en pleine refonte de nos systèmes pour accélérer cette transformation. Et puis arrive la crise du mois de mars, et tout ce que nous voulions faire en 3 ans, eh bien nous l'avons fait en 6 mois.
Alors vos salles des ventes sont à nouveau fermées depuis hier soir. Est-ce que grâce à ces premières expériences, vous allez réussir à maintenir toutes les ventes qui étaient prévues chez Christie's?
Alors, notre salle de vente est fermée au public, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus recevoir de public, mais cela ne nous empêche pas de faire des ventes. Nous faisons 3 types de ventes. D'abord, les ventes physiques, classiques, elles vont continuer. Nous pouvons faire des ventes que nous appelons à huis clos, c'est-à-dire il n'y a pas public dans la salle, il y a bien un commissaire-priseur qui se trouve dans la salle des ventes, qui est accompagné sur sa gauche d'une série de collaborateurs qui sont tous à distance, bien sûr très loin les uns des autres, et qui vont prendre des enchères au téléphone, comme dans n'importe quelle vente aux enchères. Et puis les internautes peuvent aussi participer à la vente en enchérissant depuis l'ordinateur en cliquant et en faisant des enchères en ligne, s'il existe dans toute vente classique, et enfin en laissant des ordres d'achat, des enchères écrites données avant la vente. Donc nous continuons ces ventes classiques. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas avoir de public dans notre salle de vente.
Mais ce qui change tout, c'est quand même, en tout cas, l'image d'Épinal que l'on a tous, ces salles de vente où on lève la main, on renchérit, on surenchérit.
On entend frapper.
C'est quand même ça, vraiment, l'état d'esprit du
vendu.
Alors, c'est l'image d'Épinal. Ce n'est plus la réalité de Christie's depuis très longtemps. Pour, en tout cas, les ventes classique de saison, les ventes normales, si je veux dire. Je ne parle pas des ventes des collections extrêmement prestigieuses qui amènent toujours un public beaucoup plus important dans la salle au moment de la vente. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a de moins en moins de gens qui sont physiquement présents dans la salle au moment de la vente. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, ce sont des acheteurs du monde entier qui participent à nos ventes. Nos ventes à Paris pour Christie's, 2/3 des acheteurs sont étrangers. Parfois même suivant les départements, c'est bien plus que 2/3. Donc de toute façon, ces gens-là ne pourraient pas être là, confinement ou pas confinement. Deuxièmement, parce que les acheteurs veulent être discrets. Et donc autant ils sont heureux de venir voir les œuvres, autant ils ne veulent pas qu'on les voit forcément enchérir. Et donc il y a une tendance depuis beaucoup d'années d'être présent au téléphone. Et s'y est ajoutée la possibilité d'enchérir en ligne en cliquant sur son ordinateur. Donc en fait, c'est quelque chose, l'image d'Épinal, elle existe, c'est toujours vrai pour des ventes, collections très prestigieuses, mais pour le 80% de nos ventes, le public, c'est 10 ou 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, un grand maximum. Aujourd'hui, ça sera zéro, mais finalement, les gens, on peut les accompagner différemment.
Est-ce que finalement, vous arrivez aux mêmes enchères? Parce que quand il y a cette ambiance où tout le monde surenchérit, qu'on voit l'autre, qu'on se zieute, etc., est-ce qu'on n'a pas tendance à aller de plus en plus loin? Est-ce que ça n'a pas calmé un petit peu le montant des enchères?
Alors c'est une excellente question et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, non. Ça dépend une fois de plus du type de vente. Encore une fois, la vente Yves Saint Laurent, évidemment, c'est comme Christie l'a organisé en 2009, évidemment, le fait d'avoir des clients dans la salle, en plus des gens qui sont en train d'enchérir au téléphone sur Internet, ajoute une émulation, une excitation, tout simplement une émulation énergétique dans la salle. Le commissaire-priseur lui-même, il est porté par toute cette énergie, par cette tension dans la salle qui a lieu. Mais finalement, on s'est rendu compte à partir des ventes aux enchères purement en ligne, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui sont des ventes qui existent sans aucun commissaire-priseur, qui sont des ventes comme une exposition sur notre site pendant 8 jours et où vous pouvez vous inscrire et enchérir jusqu'à une date, une heure fixe qui a été donnée comme fin
vente. Un peu comme
un
célèbre site de vente aux enchères, non ?
Je ne sais pas quel vous appelez le célèbre de vente aux enchères. Vous parlez duquel ? Il y en a plein. Ah, moi, je pensais à Christie's, en fait.
Non, eBay, ils font de la vente aux enchères, finalement.
Oui,
bien
sûr. Donc ça, c'est possible. Et finalement, on s'est rendu compte que pour certains types de ventes, pour certains des ventes, soit d'objets qui sont plus des multiples, des collectibles, je pense à la photographie, aux montres, aux bijoux, aux vins, aux sacs à main, c'était un format qui fonctionnait remarquablement bien. Et l'émulation, vous l'aviez d'une autre façon. C'est-à-dire que les gens étaient devant leur écran et se battaient, mais sur l'écran. Un peu comme au casino. Donc en fait, bien sûr, on ne remplace jamais la présence physique. On manque tous dans le monde virtuel auquel nous entrons de cette présence physique. On a tous envie de se voir, de se toucher, de voir les œuvres. Mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'outils qui nous permettent de faire un peu comme si. Tout notre travail chez Christie, c'est comment faire pour que ça reste le plus sensible possible. Mais en termes de résultats, on y arrive tout aussi bien.
Cécile Verdier, vous êtes la présidente de Christie's France. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
La France bouge, nous parlons aujourd'hui des ventes aux enchères, un secteur qui a complètement dopé sa transformation numérique depuis le début du Covid. Et pour en parler, nous sommes avec la spécialiste, c'est comme ça dans la France bouge, toujours les bonnes personnes, Cécile Verdier, présidente de Christie's France.
Et avec Olivier Delachaise, directeur général d'Agorastore, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors vous, des salles de vente, vous n'en avez jamais eu, hein. Vous avez tout de suite commencé par la vente en ligne en 2005. Tout a commencé à Lyon. La ville avait du matériel à vendre, elle décide de créer une plateforme pour tout vendre aux enchères, plateforme rachetée en 2011, et depuis c'est ouvert à toutes les villes. Comment ça marche ?
Eh bien oui, notre image d'Épinal à nous, c'est le web, et ça marche assez simplement, puisque notre enjeu, c'est de démocratiser, de simplifier et de digitaliser les ventes aux enchères. Donc en fait, les collectivités locales, à l'origine, accompagnées par nos équipes, mettent leurs biens en ligne sur le site agorastore.fr. Et ensuite, il y a un processus de vente qui a lieu totalement full web et où les acheteurs potentiels viennent enchérir selon des pas qui sont décidés à l'avance avec les vendeurs jusqu'à la clôture de la vente qui dure normalement pendant 2 jours. Après une période d'exposition qui peut aller de 1 semaine à 15 jours. Le meilleur enchérisseur est l'attributaire du bien vendu par les collectivités locales.
Avec Carole, on invite vraiment nos auditeurs à aller voir votre site, hein, parce que c'est vraiment très sympa tout ce qu'on peut y trouver. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce sont vraiment les collectivités qui viennent directement à vous pour dire, bah voilà, moi par exemple, je change mon matériel scolaire, je change toutes mes chaises dans une école. Je vais donc essayer de passer par votre site pour récupérer un petit peu de sous pour vendre mes anciennes chaises, etc. etc. C'est ça l'idée ?
C'est ça l'idée. Ce sont des biens dont la collectivité locale n'a plus usage, soit parce que ses besoins ont changé, soit parce que c'est du matériel réformé. Et plutôt que de les laisser traîner dans un hangar, on est acteur du réemploi, de la bonne gestion des deniers publics, de la transparence également, et accompagnés par nos équipes, les collectivités locales vont pouvoir mettre en ligne toute une série de biens qui vont, comme vous le dites, de la table et la chaise, mais jusque à des véhicules beaucoup plus lourds.
Il y a des anciennes poubelles.
Des poubelles, des bennes à ordures, c'est très varié.
Des palmiers, on l'a dit.
Des palmiers, c'est ouvert à tout le monde. Les acheteurs peuvent être à la fois des professionnels, des collectivités parfois, qui réemploient leur matériel, ou des particuliers.
Vous avez dit que c'est une bonne manière d'améliorer le budget de la ville, en fait.
Absolument. Nous aidons les collectivités locales à mieux gérer leurs deniers publics, puisque c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de la collectivité, à un moment où, comme beaucoup d'organismes, elles en ont besoin. Et jusqu'alors, beaucoup gardaient ces matériels, n'en faisaient rien. Et évidemment, ce n'est pas vertueux.
Pas, hein.
Et certains les mettaient à la poubelle, absolument.
Quelle a été la plus belle vente que vous ayez réalisée ? Quel est votre plus beau souvenir ?
Ah, c'est peut-être un souvenir très récent, puisque nous venons de vendre un bien immobilier assez majeur de la ville de Paris pour environ 3 millions d'euros. C'est le monastère du Glandier, qui est en Corrèze. Et on avait un prix de départ qui était à 750 000 euros. On a eu des enchères jusqu'à 3 millions d'euros. Et c'est très vertueux aussi, parce que c'est un ensemble immobilier qui va être retapé avec des contraintes environnementales et sociales très fortes. Donc voilà typiquement en quoi Agorastore peut aider les collectivités à mieux gérer leurs biens.
Vous prenez quoi comme marge sur les ventes ?
C'est très varié, c'est entre 5 et 10%
en fonction de la valeur
de ce que nous vendons.
Est-ce qu'avec la crise, vous avez plus de monde qui vient chez vous, que ce soit pour vendre ou pour acheter ?
Alors oui, nous sommes en forte croissance, à la fois côté vendeur et côté acheteur. Nous avons un modèle économique qui est extrêmement résilient en temps de crise. Les ventes continuent. D'ailleurs, j'invite, même depuis hier soir, j'invite tous nos acheteurs et tous nos vendeurs à continuer à visiter le site et à procéder aux ventes. Nous sommes en progression de 40% à peu près an, en 2019 en tout cas.
Et ça s'est accéléré là, avec le confinement ?
Alors, ça ne s'est pas accéléré. Parce
c'est récent, le confinement.
Le premier confinement,
nous avons quand même, en accord avec nos vendeurs et acheteurs, mis entre parenthèses pendant 2 mois notre activité. Néanmoins, nous ferons probablement une progression de l'ordre de 25% cette année.
Cécile Verdier, vous êtes la présidente de Christie's France. Même chez vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se vend pas que des grandes œuvres d'art réservées à une poignée d'initiés. Tout le monde peut acheter aux ventes aux enchères.
Mais je suis ravie de vous l'entendre dire, parce qu'effectivement, nous avons une image de maison internationale de prestige qui vend un tableau de Léonard de Vinci à 450 millions de dollars. C'est très, 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 très loin du prix moyen de ce qu'on vend chez nous. Et nous vendons aussi bien de la bande dessinée, des sacs à main, du vin, de la photographie. On avons même organisé les ventes de baskets, une collection de baskets d'un grand collectionneur américain au mois de juillet. Et nous avons une vente de skateboard qui est prévue. Donc nous avons des ventes extrêmement larges et nous ne vendons pas que des tableaux pour des millions de dollars. Le prix moyen chez nous, à Paris, il est un peu différent du groupe. Il doit être autour de 30-40 000 euros, mais des œuvres sont à vendre dès 500 ou 800 euros, notamment dans les fameuses ventes en ligne, purement en ligne, où on propose des œuvres moins chères.
Comment on se bat pour être sûr que ça arrive chez Christie's ? Parce qu'on pourrait citer les autres grands noms, Sotheby's, Arcurial et plein d'autres qui sont présents sur la place mondiale. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que Christie's est l'un des leaders ?
Alors, je pense que nous sommes un des leaders pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que de toute façon, le principe d'une grande maison comme celle-ci, c'est sa crédibilité, c'est son expertise, c'est la force de ses experts. C'est qu'effectivement, j'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que disait l'intervenant précédent pour vendre des... Et je suis passionnée d'ailleurs par ce sujet. Là, je vais me précipiter sur...
Vous pouvez, c'est très sympa comme type.
Je vous donnerai les coordonnées.
Carole Ferry a voulu déjà acheter des chaises ce matin.
Mais effectivement, ce que nous proposons, c'est la garantie de notre expertise. C'est-à-dire que vous avez chez nous des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont des experts de chaque domaine et qui vont vous assurer que ce que nous vous proposons en vente est bien ce que nous vous disons, dans l'état dans lequel nous vous le disons, qu'il y a une provenance qui est parfaite et que cette transaction, elle est fiable, c'est-à-dire que le vendeur est bien le propriétaire de l'objet, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour des objets importants, plus les montants sont importants, plus c'est important d'avoir cette sécurité. Deuxièmement, une chose très importante pour Christie's, en tout cas à Paris, particulièrement à Paris, c'est que depuis 20 ans, la maison appartient, comme vous l'avez dit au début de l'émission, à François Pinault. François Pinault, qu'est-ce que ça veut veut dire d'être propriétaire de François Pinault? Ça veut dire d'abord un actionnariat privé et familial depuis 20 ans qui nous accompagne, donc une grande stabilité. Ça veut dire aussi que c'est un collectionneur lui-même. Un collectionneur, ça veut dire qu'il comprend les enjeux de notre métier. Et c'est fondamental d'avoir un propriétaire qui comprend ce que c'est. Et puis c'est aussi le propriétaire d'un groupe de luxe. Et ça nous a permis aussi de beaucoup étudier les canons de l'univers du luxe pour les adapter pour beaucoup de nos ventes à l'univers des ventes aux enchères plus classiques.
Alors vous faites donc de la vente, vous, Olivier Delachaise, vraiment de biens publics. Ça c'est très large, hein. Il y a les villes, mais on sait, il y a d'autres. Par exemple, les douanes font aussi parfois des ventes. Vous, là, vous ne le vendez pas, mais...
Les douanes, l'État, les administrateurs judiciaires, il y a toute une population qui ne se retrouve pas dans les sites aux enchères habituels parce que nous avons développé des expertises de procédure. Nous accompagnons nos clients dans la procédure et la procédure publique, même si elle n'est pas formalisée comme le code des marchés publics, elle fait l'objet de contraintes. Nous venons d'ailleurs de sortir un guide des cessions des biens immobiliers publics, par exemple avec Dalloz, qui est la première somme de droit qui encadre ça, et c'est une expertise que nous avons vraiment développée.
Merci Olivier Delachaise, vous êtes donc le directeur général d'Agorastore, et encore une fois, on vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble.
Voilà,
merci.
Et on va garder avec nous Cécile Verdier, la présidente de Christie's France, et notre grande patronne du jour, elle est avec nous jusqu'à 14h sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Eh oui, la France bouge encore. Elle est certes confinée, mais elle bouge et elle bougera jusqu'à la fin de cette saison, au moins sur Europe 1, puisqu'on va vous accompagner dans cette période si compliquée. On va continuer de mettre en avant dans cette émission tous ces secteurs qui profitent de cette période très bizarre pour tout simplement se réinventer et continuer. Et parmi ces secteurs qui vont pas si mal, on l'entend depuis le début de cette émission, il y a les ventes aux enchères et on est avec Cécile Verdier, la présidente de Christie's France. Alors vous disiez que vous avez gagné un temps fou finalement grâce à ce qui est en train de se passer. C'est pour accélérer sur le numérique. Et vous aviez pourtant déjà réussi, il y a ça quelques temps, une prouesse, puisque vous aviez fait une vente 100% numérique. Vous aviez organisé une vente aux enchères mondiale que vous aviez appelée, je crois, la vente One, si je ne dis pas une ânerie. Elle est mondiale parce qu'elle se passait en même temps dans plusieurs endroits. Racontez-nous.
Alors voilà, ça c'est typiquement un résultat positif de la crise que nous traversons. Comme nous étions tous enfermés chez nous au mois de mars-avril, à nous demander comment faire pour faire nos ventes aux enchères, pour séduire nos clients, vendeurs, acheteurs, pour redonner de l'espoir aussi à nos équipes qui étaient tous un petit peu déprimées, de se dire comment se réinventer. Cette idée a émergé et elle a fédéré à la fois nos équipes et nos clients, et ça a été un moment franchement très 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 important pour nous et pour le marché de l'art. Le postulat, c'était qu'en général, chaque année au mois de mai, il y a une grande semaine qui a lieu à New York, qu'on appelle la Big Week, et qui est la semaine où toutes les grandes maisons internationales, donc Christie's et d'autres,
présentent.
Il y en a même d'autres plus petites aussi, qui présentent les lofards de l'art contemporain et de l'art moderne. En gros, la création du XXe siècle. Ce sont des ventes, pour vous donner un ordre de grandeur, chez nous, qui en général réunissent pas loin d'un milliard d'euros dans une saison. Donc c'est très très important économiquement, c'est très important aussi, c'est un véritable événement du marché de l'art, et la terre entière se précipite à New York pour voir les offres des maisons de vente, notamment de Christie's, à ce moment-là. Cette année, on savait bien que les gens n'allaient pas bouger. On se demandait comment faire
pour convaincre.
Et donc, nous nous sommes dit que finalement, notre maison de vente, qui est internationale, qui est présente dans beaucoup, beaucoup de points de vente dans le monde, a plusieurs lieux de vente majeurs, et que peut-être la réponse, c'était d'organiser une vente en quadruplex, où, puisque les clients n'allaient pas voyager à New York, c'était pas la peine de faire voyager non plus les œuvres, et que nous allions vendre les œuvres dans la zone géographique où elles se trouvaient, avec une vente en quadruplex. Donc, la vente a commencé, c'était le 10 juillet dernier, elle a commencé, il était à peu près 8h du soir à Hong Kong, 3h d'après-midi à Paris, 2h à Londres, et 8h du matin à New York, grosso modo.
Il faut bien choisir l'horaire.
Mais l'idée de ce moment, c'était d'avoir le monde entier de disponible. L'Asie n'était pas encore couchée.
Et avec chacun son commissaire priseur, chacun les biens qui restaient dans les pays en question. Quelle différence y avait avec une vente française en ligne ?
Alors, les objets étaient chacun exposés dans le pays de référence. Nous avions pu un catalogue international mondial qui référençait toutes les œuvres vendues comme une seule vente. C'était une seule vente en quatre sessions, si je puis dire. Donc, tous les clients du monde étaient exposés à cette vente mondiale. On a commencé par vendre les lots qui étaient à Hong Kong, avec un commissaire priseur à Hong Kong, qui, dans sa salle de vente à Hong Kong, avec les gens au téléphone, les gens dans sa salle de vente, vendaient les œuvres. Et les trois autres commissaires priseurs, moi en l'occurrence pour Paris et mes collègues de Londres et de New York, nous prenions des enchères à Paris, dans la salle, au téléphone, que nous relayions à notre collègue de Hong Kong. Et puis, ça a été le tour de la vente de Paris, la vente de Londres et la vente de New York. Et donc, nous avons vendu, comme ça, sur 4 heures, 70 lots pour 420 millions de dollars, alors, avec une expérience unique, des milliers de personnes qui ont suivi cette vente, non seulement sur le site de Christie's, mais sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux.
Alors, on l'entend, ce sont des millions de dollars qui sont très régulièrement brassés lors de ces ventes. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur la sécurisation de ces ventes en ligne? On est sûr que ces flux d'argent, on est sûr que ces enchères soient bien réelles. Comment vous avez travaillé pour que tout se passe bien de ce point de vue-là?
Alors, vous avez raison, c'est fondamental. Alors, on travaille là-dessus depuis très longtemps puisque nous faisons des ventes en ligne depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, encore une fois, que ça soit, il s'agit de ventes complètement en ligne, c'est-à-dire sans la présence d'un commissaire priseur visible à l'écran, ou alors de ventes qui sont des ventes physiques avec la possibilité d'enchérir en ligne depuis chez vous, vous ne pouvez pas comme ça apparaître dans une vente du jour au lendemain. Il faut vous inscrire, nous avons vos références bancaires, nous vous connaissons et nous vous donnons accès ou pas pour enchérir dans la vente. Donc bien sûr, suivant les montants en jeu, nous allons demander aux internautes sur quelle œuvre, sur quel montant ils souhaitent enchérir pour s'assurer et leur donner la possibilité d'enchérir en fonction de ce que nous savons d'eux, bien sûr. Les objets, de toute façon, ne sont pas remis sans qu'ils aient été payés. Enfin, c'est aussi une garantie complémentaire.
Alors, on a parlé tout à l'heure de l'un de vos principaux concurrents, Sotheby's, qui a été racheté récemment par Patrick Drahi. Vous-même, Christie's, on l'a dit, racheté depuis bien plus longtemps par le Français François Pinault. Comment vous expliquez que les Français détiennent comme ça ces marchés de vente aux enchères?
Alors, ça aussi, c'est un excellent sujet.
On essaye, vous savez, de temps en temps, on essaye.
On travaille un peu.
Non, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que je le relève. Parce que je pense qu'il y a d'abord à Paris quelque chose qu'il n'y a en fait nulle part dans le monde. Il y a quatre éléments. Vous avez des maisons de vente partout dans le monde. Mais comme vous l'avez dit, Drouot existe depuis très longtemps, et il existe depuis très longtemps. J'y ai fait mes classes et c'est un endroit que je respecte et que j'aime profondément. Mais vous avez beaucoup de commissaires-priseurs en France. Vous avez des commissaires-priseurs à Londres, à New York, à Hong Kong, mais ce sont des plus petites maisons. Donc vous avez un nombre d'intervenants qui est très important en termes de maisons de vente. Vous avez un écosystème, un nombre de galeristes et d'antiquaires qui est unique au monde. Une fois de plus, vous avez des antiquaires à Londres et vous avez des galeries d'art contemporain à New York, mais vous n'en avez pas autant et d'aussi variés qui couvrent autant de champs culturels différents qu'à Paris. Et puis nous avons une offre muséale phénoménale. Je ne parle pas des foires qui, malheureusement, en ce moment, n'ont pas avoir lieu, mais à laquelle on a essayé de donner une visibilité chez Christie's. Ça, j'en parlerai plus loin. Mais donc, il y a un écosystème parisien qui est très fort. Vous avez tous les éléments du marché de l'art. Vous y ajoutez le fait que beaucoup d'œuvres d'art ont quand même été créées en France. En tout cas,
il y a vraiment. Et vous dites que Paris, finalement, est un hub de l'art.
Paris est un hub de l'art et je pense aussi qu'effectivement le Brexit qu'on oublie parmi les mille choses très agréables qui se passent actuellement, il y a aussi le Brexit. On voit beaucoup d'intervenants qui étaient présents à Londres, des galeries internationales qui étaient présentes à Londres et qui ouvrent à Paris. Beaucoup de galeries viennent d'ouvrir à Paris qui font que Paris va vraiment être le centre européen. Et du reste, que cette vente One ait eu lieu entre Hong Kong, Paris, Londres et New York, on aurait très bien pu imaginer que ce soit uniquement Hong Kong, Londres et New York. Non. On a mis Paris sur la carte. On a mis Paris pour plein de raisons, parce que Paris est vraiment cher au cœur de notre maison de vente. On est petit en valeur. On représente moins de 10% du chiffre mondial du groupe Christie's dans le monde. Donc on est tout petit, mais on est très important.
Mais on est Paris.
Lié à cet écosystème dont je viens de parler, lié au fait que les acheteurs adorent venir acheter à Paris, il y a une image glamour de Paris, une image de la présence de l'art à Paris, et puis le fait que nous soyons un peu parisiens et un peu français quand même.
D'un mot, si on doit se résumer, on a quand même l'impression à vous écouter que ça se porte quand même finalement pas si mal que ça. Le marché de l'art en ce moment résiste bien. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, c'est aussi parce que c'est une valeur refuge dans ce monde qui est en train en partie de s'écrouler?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le côté valeur refuge de l'art, certes, c'est vrai, on le voit dans chaque crise. La dernière chose qui craque, c'est un peu le marché de l'art. La bourse, l'immobilier, en général, l'art reste une valeur qui reste plus longtemps parce qu'elle correspond à un bien physique dont les gens peuvent imaginer que de toute façon, quels que soient les aléas, si effectivement l'inflation revenait, etc., l'œuvre d'art reste une œuvre physique qu'on peut avoir et contempler. Je pense aussi que fondamentalement, l'art aujourd'hui, dans nos vies, c'est c'est un remède. Nous sommes plus ou moins en train de se reconfiner totalement chez nous. C'est une vitrine sur le monde, c'est une ouverture mentale, comme un livre. J'écoute tout ce qu'il dit sur la fermeture des librairies et ça me désole, parce qu'effectivement, l'art, c'est un accès à un imaginaire en chacun de nous et c'est à l'accès à des créations que beaucoup d'artistes ont réalisées pour s'échapper du monde dans lequel ils étaient.
Et on a bien vu d'ailleurs hier tout le monde qui se ruait dans les musées avant que ça ferme.
Exactement, j'étais au Centre Pompidou mercredi soir pour une remise de prix, donc j'étais jury dans un événement. Je n'ai jamais vu autant de monde dans ma vie au Centre Pompidou ce jour-là. Donc je pense que là, il y a véritablement une tendance l'art est un remède dans nos vies. On l'a vu avec deux choses complémentaires aussi qui me paraissent très importantes en termes de tendance liées au confinement. C'est le goût pour la nature. Le goût pour la nature et toutes les œuvres qui sont liées à la nature et au jardin.
La deuxième chose.
Un boom phénoménal. Oui, et puis troisièmement, le design. Le design, nous allons passer notre vie chez nous confinés. Quand vous passez des heures dans votre canapé à regarder votre environnement, vous dites, ce n'est plus possible, ma table basse, je dois la changer. J'étais tout le temps dehors, je vais être chez moi. Alors le design va continuer.
Cécile Verdier, je sais, vous nous l'avez dit que vous connaissez bien l'hôtel Drouot pour y avoir travaillé. C'est l'un des plus grands hôtels de vente aux enchères au monde, 10 000 mètres carrés.
Et c'est la saga du jour racontée aujourd'hui par Dora Nana de l'équipe de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Quand on pénètre à Drouot, on entre dans une institution mythique. La plus grande place de vente aux enchères publiques, un véritable temple qui a vu le jour il y a 150 ans. Maître Alexandre Gicquello, président de Drouot.
Mais entre 1852, donc période napoléonienne, Napoléon III, et 1950, l'hôtel des ventes de Drouot était le centre du monde des enchères et concentrait 80% du marché des enchères mondiales.
Drouot, c'est un musée éphémère et ouvert à tous.
Une quinzaine de salles qui tournent en permanence. C'est unique au monde, avec une ambiance folle, puisque vous avez toute une série d'amateurs et de professionnels qui sont à la recherche du trésor. Et il y en a beaucoup, et la France est très riche.
Et aussi des traditions et des métiers qui perdurent.
Nous avons cette force à Drouot, effectivement, d'avoir ce monde très particulier, ces crieurs, ces clercs, on parle d'un clerc pour les employés des maisons de vente, les commissaires-priseurs, la folle enchère, vous avez toute une série d'expressions comme ça qui n'ont pas bougé puisqu'elles sont toujours aussi efficaces.
Un théâtre de la vie avec ses personnages.
Et donc les coursiers de Drouot, vous voyez toujours des personnes qui parlent entre elles à mots feutrés et qui ne veulent pas être entendues par tel concurrent qui est dans la salle pas très loin, qui font des signes pendant la vente pour ne pas être vu. C'est tout un théâtre de la vie qui est extraordinaire et je dois dire que le métier de commissaire-priseur n'est pas le plus vélin métier du monde.
Avec des lieux qui n'ont pas changé, comme la réserve, l'antre de Drouot.
Il y a la partie émergée de l'iceberg qui est donc l'hôtel, mais en dessous, il y a tout un monde. C'est toujours la même façon d'empiler les sièges, de classer les tableaux, de les ranger d'une certaine façon. Ça ne changera jamais puisque ce sont des méthodes qui ont fait leur preuve.
Des ventes extraordinaires, comme récemment cet allosaure, ancêtre du T-Rex, vendu 3 millions d'euros, ou insolite, comme cette vente des années 20.
Quand on a saisi tous les biens de Landru, on a vendu ses biens et on a vendu sa chaudière à l'hôtel des ventes. Mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, ça serait un peu différent, j'imagine.
Drouot, c'est aussi la Gazette qui existe depuis 1891 et qui a encore beaucoup de succès aujourd'hui.
Mais à l'époque, nous avions l'obligation d'annoncer par voie de presse donc les ventes publiques. Et au fil du temps, la Gazette est devenue l'outil totalement incontournable du marché de l'art, du marché des ventes publiques du moins. Et dans un monde de la presse écrite qui souffre énormément, la Gazette continue son petit bonhomme de chemin. Petit miracle à sa façon, mais dont nous sommes évidemment très fiers.
Drouot a pris également le virage du digital il y a quelques années avec la création d'une salle de vente 2.0 et avec des enchères en ligne qui sont passées depuis la crise sanitaire de 30 à 60%.
Voilà à quel point aujourd'hui le numérique notamment est une des réponses pour certaines entreprises pour pouvoir se réinventer. Cécile Verdier, présidente de Christie's France, est notre invitée.
Europe 1, La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge. Ils, elles osent. Ils, elles se lancent. On les écoute comme ça chaque jour, pitchés devant l'œil attentif et exigeant de notre patron ou de notre patronne du jour. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Cécile Verdier, la présidente de Christie's France, alors qu'il va faire ça à distance et même à l'oreille du jour.
Bonjour, Justine Thirier.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Slow Mode. Vous avez 33 ans, vous habitez à Lille. Oui. Et vous avez créé cette société il y a un peu plus d'un an. Alors Slow Mode, on pense bien sûr à un anti-fast fashion. Hein. Mais vous allez tout nous dire, vous connaissez la règle. Vous avez une minute pour nous convaincre, pas plus, c'est à vous.
Merci. Chaque jour, les centres de collecte triblent plus de 140 000 vêtements en parfait état. C'est énorme. Rapporté à une année, ça fait 35 millions de pièces. Et pourtant, on continue d'acheter du neuf. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est beau, parce que c'est bien présenté et que c'est facile d'accès. Donc, on a décidé de créer Slow Mode pour remettre du style au cœur de la seconde main et donner envie d'acheter de l'occasion plutôt que du neuf. Pour ça, on a créé un lieu, une boutique physique chaleureuse, agréable, dans laquelle on se sent bien, avec un parcours simplifiant la recherche des tailles notamment, et bien sûr une sélection assez pointue de vêtements pour habiller toutes les femmes dans leur vie de chaque jour avec style et sans impacter la planète. Puis on a décidé d'aller plus loin en créant un atelier de customisation pour cette fois-ci s'attaquer à vos propres dressings et customiser vos vêtements. Et en parallèle de tout ça, on travaille avec les marques pour collaborer sur des vêtements de seconde main, sur leur propre collection. Notamment, on le fait avec Cézanne, on le fait aussi avec Bocage du groupe Eram. Et on travaille même sur la troisième vie avec le Closet. Nous, notre objectif, c'est de réduire le gisement et de faire en sorte qu'on se sente bien en seconde main.
Voilà, j'avais pas envie de vous couper, même si on a dépassé de quelques secondes, parce que c'était fort réussi.
Merci.
Ce pitch, et ça donne envie, ce sourire et cette bonne humeur.
Alors Justine, chaque jour, notre experte Nathalie Carré de la CCI France est là pour passer votre dossier au peigne fin. Quelles sont les forces et les faiblesses de Slow Mode ? La réponse.
Trois points positifs pour Slow Mode. D'abord, vous êtes sur un marché en croissance. 8 Français sur 10 sont adeptes du « faire soi-même » que vous proposez avec vos ateliers. Et puis, vous êtes dans l'engouement très actuel de l'upcycling qui cohabite à côté du recyclage. Vous avez enfin un manifeste très mobilisateur et fédérateur qui donne envie de vous suivre. Un point amélioré toutefois, la cohérence. Je viens de le dire, on a envie de vous suivre. Mais malheureusement, seuls les Lillois vont avoir cette chance. En ligne, peu d'articles à acheter et pas d'accès aux ateliers d'upcycling qui sont uniquement proposés dans votre boutique. Du coup, pour vous démarquer des plateformes de vente d'occasion très connues, pourquoi ne pas proposer un modèle de collaboration avec les clients de la France entière ? Vous pourriez par exemple avoir une offre qui propose d'acheter une pièce d'occasion chez vous, plus 30 minutes de coaching pour l'upcycler. Ou bien, j'ai des vêtements que je veux upcycler, je poste des photos sur votre site et une communauté propose des idées d'upcycling, avec éventuellement un atelier à distance. Il y a évidemment d'autres possibilités, mais ça serait vraiment dommage que votre enthousiasme ne puisse pas se répandre plus largement.
Alors vous répondez quoi à Nathalie, Justine ?
Merci pour le temps déjà. Et en effet, je suis complètement d'accord. L'objectif, c'est justement de développer des slow mode en France. Là, on a fait notre premier il y a tout juste un an. L'idée, c'est maintenant de travailler sur d'autres ouvertures de boutiques. Pas trop d'actualité en ce moment, mais on y travaille. En revanche, ce qui est chouette déjà avec le confinement et ce confinement-là, c'est qu'on était en train de travailler sur des solutions digitalisées, notamment des tutos.
Parce que c'est ça qui est intéressant avec ce que dit Nathalie Carré. C'est que dans un premier temps, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une boutique physique qui coûte cher, dont le loyer est onéreux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moyen de se développer. Oui. C'est quelque chose que vous aviez en tête ou là, vous vous dites, tiens, c'est peut-être pas idiot, j'ai peut-être intérêt à accélérer peut-être cette idée.
C'est chouette. En fait, ça me confirme ce qu'on avait en tête. Et puis, c'est super d'avoir aussi l'avis d'une professionnelle parce que du coup, ça nous vraiment confirme ça. Nous, on avait envie aussi peut-être d'être dans des pop-up store de magasins plus éphémères pour déjà tester les villes et puis aussi voir si ça parle aux Français. Et puis l'idée, c'est aussi justement de tester les ateliers en live.
Alors vous allez me croire un peu trop intéressé, mais il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour les hommes.
Oui. On a testé les hommes, on a testé
ils
la partie
pas
hommes.
En seconde main.
Certains achètent en seconde main, mais l'idée, c'était déjà de consacrer plus de place à la femme parce qu'il faut beaucoup de choix, beaucoup de taille. Donc promis, on pensera aux hommes.
Cécile Verdier, vous êtes la présidente de Christie's France. Ça vous plaît cette idée d'économie circulaire ? C'est un peu le principe des ventes aux enchères finalement ?
Alors, ça me plaît et ça me parle puisque nous vendons également de la mode. Mmh. Nous vendons du vintage. C'est quelque chose qui s'est développé depuis quelques années, où, notamment il y a une personnalité. Nous avions vendu toute la garde-robe de Catherine Deneuve l'année dernière.
Ça.
Toute la garde-robe Saint-Laurent. Nous avons d'autres projets qui s'avancent. Et effectivement, on sent bien, c'est une tendance. Je vais garder ça pour tout de suite. Je ne vais pas tout vous dire la première fois, mais ravitez-moi, je serais ravie de vous en parler une fois avec des noms très connus. Mais effectivement, c'est une tendance importante et ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup le côté customisation et je pense que vous devez.
Vous avez un petit conseil à lui donner dans son modèle économique. Là, on a entendu les commentaires de Nathalie Carré, mais vous en avez un, vous aussi ?
Non, moi, il y a deux choses. Effectivement, je pense que la customisation, elle répond à un besoin autre, qui est l'individualisation. C'est d'avoir quelque chose qui n'est pas exactement le même que celui de nos voisins. Et redonner vie à des pièces anciennes, ça me paraît fondamental. Je pense qu'elle doit accentuer son côté digital, et peut-être pas uniquement dans le tuto, mais dans la vente, tout simplement.
Merci Justine Thirier, fondatrice de Slow Mode.
Alors
merci.
Si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates et de nos candidats. En route pour les trophées Europe 1, la France bouge.
Cécile Verdier, vous êtes la présidente de Christie's France et vous nous apportez votre expertise tout au long de cette émission.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
La France bouge, dernière partie de votre émission ce vendredi avec Demain au travail. Nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Cécile Verdier, la patronne de Christie's en France.
Bonjour François Guérin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de CETI. Vous fabriquez des portes d'entrée, des sonnettes pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Alors, vous avez 1300 salariés, 7 usines en France. Il y a 20 ans, vous décidez d'associer les salariés au capital de l'entreprise. Ça s'appelle de l'actionnariat salarié. Et vous avez aujourd'hui, 200 salariés actionnaires, c'est ça ?
Exactement, oui. 200 salariés actionnaires, oui.
Et alors, c'est quoi ? Ce sont plutôt les ouvriers, les cadres, les techniciens qui deviennent actionnaires ?
Alors nous, on a fait un choix que ça soit ouvert à tout le monde. C'est pas réservé à la caste des dirigeants ou à une particulière ou à des cadres. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on a un tiers d'ouvriers, un tiers de techniciens en maîtrise et un tiers de cadres. Et tout ça regroupé dans une société des salariés actionnaires de l'entreprise.
Quand on devient actionnaire, on est un peu plus casse-pied avec vous. On veut en savoir un petit peu plus sur les comptes. On vous donne un peu plus d'idées qu'avant en disant là, patron, ça avance pas l'entreprise.
Alors, je dirais pas casse-pied, je dirais qu'on est simplement
plus exigeant,
plus engagé. Et c'est exactement ça, ouais. Ça augmente la responsabilité, je pense, déjà des dirigeants. Parce que, en plus, il y a de l'emploi des personnes, vous êtes aussi responsable de leur investissement. Et donc, ça décuple notre responsabilité et l'envie, en tout cas, de faire en sorte que l'entreprise aille bien et aille bien sur le long terme.
Mais là, ce sont quand même que 200 salariés sur 1300, c'est pas tant que ça, finalement.
Alors, l'entreprise, elle a beaucoup grandi. Si je reprends l'histoire, en 95, quand il y a eu le début de l'actionnariat salarié, il y avait 100 personnes. Aujourd'hui, on est 1300. Et ça s'est fait par croissance organique ou par croissance externe. Donc, ça a augmenté au fil du temps. Mais c'est un choix. C'est un choix pour les salariés de dire j'y vais ou j'y vais pas. Et 200, c'est déjà aussi un chiffre assez significatif. Ça crée une communauté, en tout cas, qui irrigue une dynamique collective de l'entreprise qui est importante.
En tout cas, on imagine que ça fidélise. Vous le faites donc tous les 4 ans. Pourquoi ce rythme de 4 ans?
Nous, ça correspond un peu à des cycles, on dit 4-5 ans. Ça correspond aussi à nos cycles de plan stratégique. On crée par ce biais-là aussi une sorte de fidélisation. On n'est pas à la bourse, on peut entrer et sortir quand on veut. On s'engage sur une période de 4-5 ans, voire 6 ans. On a juste la période un peu où on peut sortir. Mais c'est justement pour différencier de la bourse où vous vendez et achetez quand vous voulez et qui crée un peu une forme de spéculation. Et là, on est plutôt, nous, dans la fidélisation à un projet d'entreprise.
Cécile Verdier, vous êtes donc la présidente de Christie's France. Ça n'existe pas chez vous, l'actionnariat salarié comme ça ?
Alors, ça n'existe pas. La maison appartient à une famille, à un groupe. Elle ne nous appartient pas. Je ne suis pas non plus actionnaire de la maison. Pas du tout.
Et vous, Monsieur Guérin, est-ce que ceux qui ont acheté au début sont sortis gagnants aujourd'hui ?
Ah oui, alors il y a bien sûr, on a eu la chance, c'est aussi le travail de tous, hein, de toute l'équipe, de tout le collectif, mais on a eu une dynamique positive sur toutes ces années. Donc, les gens qui ont investi ont eu des augmentations de leur investissement de façon assez significative. Je prenais, pour donner un exemple, sur 10 ans, si vous investissez 100 sur le livret A, ça devient 110 10 ans après, je crois les 10 années, le CAC 40
bon exemple.
Est de 100 à 150. Sur l'entreprise, on est passé de 100 à 214.
Ah oui, quand
voilà.
Même.
Donc on n'est pas dans l'ultra-performance, que nous sommes des industriels, donc c'est une activité qui se développe progressivement, mais c'est quand même un rendement significatif et mieux que ce qu'on peut trouver ailleurs.
Merci François Guérin, directeur général de CETI.
Et c'est déjà la fin de votre émission. Un grand merci à notre témoin du jour, Cécile Verdier, la présidente de Christie's France. Un grand merci à vous, Carole Ferry, de nous avoir accompagnés toute cette semaine autour de la France. Bonjour, on retrouvera lundi Elisabeth Assayag.
Mais écoutez, c'était un vrai plaisir d'être avec vous cette semaine. Et alors, vous allez enfin pouvoir partir en week-end, Emmanuel ?
Oui, pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai voulu partir un peu plus tôt. Mais en tout cas, lundi, on parlera d'Orange. On sera avec la patronne France d'Orange. Est-ce qu'on est en train de s'équiper en ce moment pour faire face à ce nouveau confinement? Et puis, tout simplement, est-ce que Orange prépare bien l'arrivée de ses forfaits 5G? Est-ce que ce confinement va retarder un petit peu les choses pour Noël? On va voir tout ça lundi, 13h sur Europe 1.